Merci beaucoup Clément pour la gentille introduction et je te remercie beaucoup pour l'invitation dans cette honorable institution. Donc comme Clément l'a dit, effectivement ce que je me suis dit qu'il serait intéressant de montrer un tout petit peu une démarche scientifique, comment un chimiste peut utiliser les outils de la chimie et ici particulièrement les outils de la chimie de coordination pour essayer de construire des systèmes qui ont une certaine propriété pour commencer, et puis éventuellement, si cela est possible, des systèmes qui peuvent servir à quelque chose, c'est-à-dire qui pourraient avoir une fonction. Donc d'abord propriété et puis une fonction. La propriété, comme on va voir, ce n'est pas très très difficile. La fonction, par contre, comme vous allez voir, c'est un peu plus difficile. J'ai fait exprès de choisir, en fait, tout au long, donc si vous voulez, de l'exposé, des exemples où on voit bien ce qui y a marché, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné. Parce que effectivement, il est très important de se rendre compte que ce qui ne fonctionne pas alimente en fait la réflexion et permet effectivement de pouvoir trouver les solutions et de pouvoir inventer et créer autre chose, quelque chose de nouveau. Et il faut bien l'avouer, ce qu'on crée en fait, on ne le sait pas au départ. On fait des erreurs, c'est-à-dire on pense à quelque chose, on crée quelque chose, on l'étudie, on essaye de comprendre, et puis à partir de là, on découvre quelque chose auquel on n'a jamais pensé, et puis on essaye de faire pour le mieux. Dans mon titre, j'ai mis « ingénierie magnétique ». Il y a deux mots importants ici. « Ingénierie », on peut comprendre un tout petit peu ce que cela veut dire. « Magnétique », c'est un peu plus compliqué. Plus compliqué à ce que ça paraît. Donc, mon idée, en fait, on va associer ces deux mots-là, ingénierie et magnétique, ou architecture et magnétique. On va voir, si vous voulez, comment on va pouvoir, grâce à la chimie, concevoir d'abord et puis construire des systèmes qui ont certaines propriétés magnétiques. Alors, évidemment, je ne peux pas parler de toutes les propriétés magnétiques possibles. Je veux me concentrer, en fait, sur quelques idées, et surtout, en fin de compte, sur une seule idée. D'accord ? Et on va essayer de la suivre, et essayer de voir que faut-il faire pour pouvoir arriver à cette idée-là. Donc, de manière générale, en fait, notre travail consiste à créer de nouveaux objets magnétiques. Ces objets, en fait, ce sont, comme vous allez voir, des molécules de la chimie de coordination. Donc, juste pour préciser les idées, ce sera plutôt des molécules. Donc, si je fais le parallèle avec ce que Clément a dit, Clément parlait de polymères de coordination, nous on va parler de complexes de coordination, donc en fait, ce sont des bouts de ces polymères-là, donc on va s'arrêter à la molécule. C'est très important parce que notre propriété importante va être essentiellement au sein de la molécule, dans ce cas-là, dans ce qui me concerne. Donc, on va essayer de créer les objets, on va essayer si on peut associer au sein d'un seul objet plusieurs propriétés. Cela est intéressant parce que si on arrive à associer au sein d'un seul objet plusieurs propriétés, on pourrait peut-être agir sur une propriété grâce à l'autre. Donc, on pourrait avoir peut-être une commande sur une propriété. Et puis, ce qui découle de la deuxième idée, c'est moduler la propriété par une perturbation externe. Donc, après, on va voir, cette perturbation externe peut être... On va voir la lumière, par exemple, dans le cas que je vais présenter, mais ça peut être la température ou éventuellement la pression. Mais je ne vais pas, bien sûr, traiter tous les cas possibles. Alors, donc c'est ce que je vous disais au début. Donc ça va être des molécules avec une fonction. Et la fonction, j'ai décidé de choisir, qui est évidemment la fonction la plus importante sur laquelle on travaille, c'est essayer de trouver des molécules avec de la mémoire, qui pourraient stocker de l'information. Alors, il y a un point important, une idée importante à développer ici. A priori, il n'existe pas ou presque pas de molécules individuelles où l'on peut stocker de l'information. Je parle de stockage de l'information classique, je ne parle pas bien sûr d'information quantique. Normalement, le stockage de l'information se fait dans un système où on associe plusieurs, si je parle de système magnétique, plusieurs centres paramagnétiques qui interagissent entre eux pour créer quelque chose, un effet collectif, et grâce à cet effet collectif, on peut stocker de l'information, ce sont les ferroaimants ou des nanoparticules de ferroaimants. Donc ça, c'est bien connu, c'est utilisé. Mais la question que l'on peut se poser, est-il possible d'avoir un effet mémoire dans une molécule individuelle bien isolée les unes des autres? Donc, c'est ça la question, on va voir comment on peut faire ça, mais on va utiliser bien sûr toute la connaissance, tout ce qu'on connaît sur les systèmes ferromagnétiques et sur cette idée de stocker de l'information dans une nanoparticule, bien sûr. D'accord, on va utiliser cette idée-là. Donc, d'abord, comment peut-on stocker de l'information? Que faut-il comme propriété pour arriver à cette fonction-là de stocker de l'information? La propriété importante, c'est ce qu'on appelle un cycle d'hystérèse. Bon, hystérèse dit en anglais, donc un cycle d'hystérèse. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, quand on applique une perturbation sur un système, sur une molécule, qu'on ait une réponse. Et puis, quand on éteint la perturbation, qu'on garde la réponse, que la réponse ne change pas. Exemple très simple, imaginons qu'on éclaire un système avec de la lumière, il change de bleu à rouge. En général, la plupart des systèmes, quand on éteint la lumière, ils reviennent du rouge au bleu. Ça, évidemment, ce n'est pas un système où on peut stocker de l'information. Il n'y a pas un cycle d'hystérèse. Par contre, si quand on éteint, il garde la nouvelle couleur, donc là, il a stocké l'information. Et puis après, avec une autre lumière différente, on peut revenir à la situation d'après. Ça, à la situation d'avant, ça revient donc à pouvoir stocker de l'information, parce que comme on voit ici, on va avoir, je vais utiliser ça plutôt, on va avoir, vous voyez, à la même perturbation extérieure ici, cette réponse-là, qui est bien sûr différente de cette réponse-là, donc deux réponses différentes, donc un système bistable. Alors ça c'est connu, c'est très bien, c'est très connu dans les systèmes magnétiques, par exemple. Si ici, c'est le champ magnétique appliqué et ici, c'est l'aimantation, il faut bien un cycle d'hystérèse. Les systèmes ferromagnétiques sont ici. Mais maintenant, nous, ce qu'on veut essayer, c'est faire la même chose, mais dans une molécule, où il n'y a pas d'effet collectif. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, ce qui est connu, ce qu'on appelle les nanoaimants moléculaires. Donc pour cela, il nous faut... Alors, quelles sont les conditions pour faire cela? Il nous faut essentiellement deux conditions. Il faut, un, des molécules possédant un spin élevé, un moment magnétique relativement élevé, mais relativement élevé, ça peut ne pas dépasser une valeur de 10 pour le spin, donc c'est beaucoup plus petit qu'une nanoparticule où le moment magnétique est autour d'un millier ou de 500, par exemple, donc c'est beaucoup plus petit, mais... Donc, ce qui nous oblige à devoir contrôler l'interaction entre les spins individuels au sein de cette molécule qu'on va créer. Et puis, il faut, la condition cruciale, avoir de l'anisotropie magnétique. Alors, l'idée de l'anisotropie, je ne veux pas la développer beaucoup, mais on peut la comprendre extrêmement simplement. C'est l'idée est la suivante. Si on prend un moment magnétique, par exemple un moment S égale 1, donc un spin S égale 1, on sait très bien que, vous savez très bien, et si vous ne le savez pas, je vous le dis, ce moment magnétique peut passer par trois possibilités, trois positions, qui sont les sous-niveaux MS du niveau S, du moment magnétique S. Donc S égale 1, MS égale 1, la projection comme ça, MS égale 0, c'est-à-dire la projection du moment sur l'axe qui est perpendiculaire, donc ça fait une projection 0, et MS égale moins 1. Normalement, dans un système, dans un spin normal, ces trois directions ont exactement la même énergie. Donc le moment magnétique fluctue. Dans un système comme ça, on ne peut évidemment pas stocker aucune information. Par contre, si on est capable de faire les choses à ce que les directions qui sont comme ça, donc cette direction, aient une énergie différente de celle-là, cela voudrait dire que pour passer de cette direction-là à celle-là, il faut passer par celle qui est intermédiaire. Et celle-là a une énergie beaucoup plus haute. Donc, on peut bloquer, dans ce cas-là, l'aimantation dans une direction. Et dans ce cas-là, on pourrait espérer avoir un cycle d'hystérésis, mais qui sera associé à une seule molécule, bien sûr, et pas un effet collectif au niveau d'un réseau de coordination, par exemple. Alors, comment on obtient l'anisotropie magnétique? Je ne veux pas rentrer dans le détail. On peut tout simplement... Imaginez que l'anisotropie magnétique, on peut l'avoir en construisant une molécule qui a une forme anisotrope. Ça, c'est bien sûr la première condition. Elle n'est pas suffisante, elle est nécessaire. Donc, si on construit des molécules de forme anisotrope, on peut espérer avoir l'anisotropie magnétique. Évidemment, il faut d'autres conditions, mais je ne dirai pas plus pour le moment. Donc voyons. Donc voilà. Voilà ce dont on a besoin de savoir. Maintenant, on dispose de la chimie de coordination, c'est-à-dire de quoi ? On dispose de la première série des métaux de transition où les métaux sont à l'état oxydé. Dans ce cas-là, on sait que la sous-couche D de ces métaux de transition n'est pas totalement remplie. Donc, il y a en général des électrons célibataires. Donc, ça c'est notre propriété, nous avons du magnétisme, des électrons célibataires. Deuxième chose, on dispose de la chimie organique. Donc, nous avons des ligands que l'on peut manipuler, que l'on peut synthétiser. Et à partir de ça, on peut construire ce qu'on appelle en anglais des building blocks, c'est-à-dire des briques moléculaires, des petites molécules qui, en les associant ensemble, on pourrait espérer avoir des molécules un peu plus importantes où dedans il y aurait quelques moments magnétiques qui seraient associés ensemble. Donc on va prendre un exemple. Si je prends par exemple, là j'ai un ion de chrome 3, S égale 3,5, entouré par un ligand tridentin. Donc je bloque 3 des 6 positions de coordination potentielle de cet atome de chrome 3. Le chrome 3 est connu pour pouvoir être entouré par 6 ligands. Et puis, les 3 autres positions, je mets dessus un ligand, le cyanon, dont Clément a parlé dans les Bleus de Prusse, qui lui est capable, grâce à la densité électronique qui se trouve ici sur l'atome d'azote, de se lier à un autre métal. Donc, j'ai construit en fait un système où j'ai 3 possibilités de connecter un autre métal. Et ainsi, il est très simple, il suffit de concevoir une autre molécule, là maintenant, qui est en fait entourée d'un ligand où on a bloqué 4 des positions de coordination et on en a laissé une potentiellement substituable par un autre ligand. Donc on va faire de la chimie de coordination, on va substituer ce ligand-là par ce ligand-là, par cet atome-là, et ainsi pouvoir construire le composé le plus simple, juste un composé binucléaire formé d'un atome de chrome 3 de spin 3,5 et d'un atome de nickel 2 de spin 1. Et ainsi, on peut, grâce à l'interaction entre ces deux électrons, le spin total de la molécule devient 5,5. Donc on a créé en fait, à partir de spin, de petits spins, une molécule qui a un spin beaucoup plus élevé. Évidemment, 5,5, c'est beaucoup trop faible encore. Il faudrait faire mieux, parce que, vous vous rappelez, si je veux espérer pouvoir bloquer l'aimantation dans une direction, il me faut un spin beaucoup plus élevé, et plus en anisotropie magnétique. Donc, continuons. Ben, on peut jouer au même jeu. On peut reprendre toujours le même complexe qu'il y a avant, avec les 3 azotes ici, libres. Et puis, je change le deuxième building block, la deuxième brique, de manière à laisser beaucoup moins d'encombrement stérique. Donc l'idée ici, l'idée est là, c'est-à-dire je dégage, j'utilise un ligand organique en fait beaucoup plus petit, ce qui permettrait à ce que 3 de ces ions-là se mettent sur les 3 azotes ici, et ainsi j'obtiens un composé tétranucléaire comportant un atome de chrome, un atome de nickel, un atome de nickel et un atome de nickel. Le spin ici est 3,5, le spin ici est 1, et puisque l'interaction entre ce spin central 3,5 et les 3 spins extérieurs 1 et ce qu'on appelle ferromagnétique, c'est-à-dire les moments magnétiques voudraient se mettre ensemble dans la même direction, donc parallèle, comme je l'ai dessiné ici, on obtient un spin total de 9,5. Donc on voit bien comment, en fait, on peut petit à petit augmenter la valeur du spin. Bon. Ben, regardons quand même ce qui se passe pour la propriété. Donc on a fait un spin qui n'est pas énorme, qui est très petit encore, 9,5. Et on a mesuré donc la cyclodystérésis, donc l'aimantation en fonction du champ magnétique. Bon, c'est mitigé. Vous voyez bien, il y a un cyclodystérésis, ce qui est exceptionnel pour un spin 9,5. Le moment magnétique est vraiment très très petit, comparé à ce qu'on est dans les nanoparticules. Néanmoins, il y a un petit cyclodystérésis. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure ? On peut conclure que c'est très difficile, évidemment, mais que ce n'est pas perdu. Donc, il y a de l'espoir. Je ne vais pas vous donner les résultats qu'on a obtenus après ça, mais à partir de ça, on voit bien qu'il y a de l'espoir. Et donc, si on continue, on peut obtenir des molécules un peu plus importantes avec des spins qui peuvent aller jusqu'à 21,5. Et là, il n'y a aucun problème. On voit un cycle d'hystérésis qui est très, très important. Bon. Néanmoins, dans ce que je viens de dire ici, j'ai illustré en fait une approche de la, dans, en chimie de coordination, en chimie moléculaire, en chimie de coordination. C'est ce que j'appellerais l'approche rationnelle. C'est-à-dire, je conçois mes molécules de départ de manière à ce que le résultat soit pratiquement prévisible. C'est-à-dire, je sais, avant de synthétiser la dernière molécule, grâce à ce que j'ai fait dans les premières, quelle va être l'architecture de la molécule et donc le spin total. Disons que ça marche à peu près dans 90% de cas, ce qui est pas mal comme taux de réussite en chimie. Néanmoins, quand on regarde les propriétés magnétiques, surtout la bistabilité magnétique dans ces molécules qui sont conçues de manière rationnelle, on se rend compte en fait que le taux de réussite n'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'il y a en fin de compte peu de molécules qui présentent un cycle d'hystérésis beaucoup plus large que celui-là. Bon. Donc on peut réfléchir, on peut dire, on peut adopter une autre stratégie, une stratégie différente qui permet en fait aux molécules de ne pas avoir beaucoup de contraintes quand elles vont se former en solution. Les contraintes, en fait, imposées par les ligands organiques qu'on est obligé d'utiliser pour prévoir le spin final, imposent des contraintes géométriques et diminuent énormément l'anisotropie de la molécule. C'est ça le gros problème, en fait, on s'est rendu compte. C'est-à-dire, les molécules ne possèdent pas une anisotropie axiale nécessaire pour l'apparition de blocage de l'aimantation, donc de l'effet de bistabilité. Donc ce qu'on s'était dit, si on laisse aux molécules, on met beaucoup moins de contraintes et on laisse les molécules choisir la structure qui, on espère, serait peut-être la plus symétrique, mais en gardant une anisotropie axiale, on pourrait peut-être avoir des résultats un peu plus importants. Donc la deuxième approche, c'est une approche un peu moins rationnelle que la première. Mais c'est une approche qu'on peut appeler une approche en anglais one pot, c'est-à-dire on va réfléchir d'abord, on va choisir tous les ingrédients qu'on pense être nécessaires, on va les mélanger tous ensemble et on va espérer que d'un seul coup on va obtenir la molécule intéressante. Alors, ça ressemble beaucoup, donc l'analogie est, avec la cuisine est assez pertinente parce que vous savez très très bien que vous, si vous voulez faire un bon plat, il vaut bien que vous choisissiez vos ingrédients de meilleure qualité, vous les préparez, vous les coupez d'une certaine manière, il faut bien mettre la quantité de poivre et de sel nécessaire et il faut surtout les cuire juste le temps nécessaire, pas trop et pas moins. Ça c'est bien connu par exemple pour faire une sauce tomate. Sauce tomate, il faut savoir exactement combien la cuire pour qu'elle ait le bon goût. Ici, c'est presque ça. Donc, quel est l'ingrédient? L'ingrédient, c'est par exemple cette molécule. C'est une molécule qui est bien connue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Donc là, j'ai des atomes de carbone en noir et là, j'ai des atomes d'oxygène en rouge. Donc, c'est un trialcool, en fait, OH. Qu'est-ce qu'il y a dans ce ligand-là? Ce ligand-là peut faire deux choses. Grâce aux atomes d'oxygène, une fois déprotonés en solution, il est capable de ponter deux centres métalliques, au moins, et peut-être même trois. Donc, c'est comme un oxo. Mais aussi, il est capable de jouer de ligand terminal, de éventuellement arrêter la croissance du petit cluster en solution. Donc, il faut en fait, ça c'est les deux ingrédients de base. Si on ne met pas un ligand qui est capable de bloquer la croissance, en général, on obtient un peu n'importe quoi en solution, on obtient un mélange d'oligomères, de petits clusters, de grands clusters, ainsi de suite. Donc, alors, évidemment, c'est ce qu'on avait essayé en même temps au début, et on ne savait pas si ça pouvait marcher. Et effectivement, ça marche très 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 bien. Sauf que, évidemment, quand vous le voyez bien, le résultat, il est complètement imprévisible. On peut, c'est-à-dire, il est imprévisible dans quel sens? On a des molécules, tout le temps. Donc ça, c'était très bien, cette partie-là était bien prévisible. Évidemment, l'architecture et la structure des clusters obtenus, elle est pratiquement complètement imprévisible. Néanmoins, comme on voit là, si on utilise du cobalt 2, on obtient un composé trinucléaire. Vous voyez bien, voilà, il est là, notre ligand, qui bloque en fait la formation de la chaîne. Alors évidemment, il n'y a pas que lui qui bloque, il y a le solvant, il y a la température, il y a d'autres ingrédients, mais le ligand joue un rôle très important. Ça, c'est une autre molécule de structure qu'on appelle cubane. On a les atomes métalliques, ici en vert, qui peuvent être du cobalt 2 ou du nickel 2, au sommet donc, d'un cube, un sommet sur deux, et les atomes d'oxygène de ce ligand-là sont sur les autres sommets du cube, et on voit bien, on en a quatre, un ligand, un ici, qui bloque en fait la structure du cube. On peut avoir des molécules un peu plus grandes en associant un autre ligand aussi pontant à celui-là. Par exemple, ici, c'est le cas d'un carboxylate et on peut obtenir un complexe, par exemple, avec sept centres métalliques, un au centre et six à l'extérieur. Et on peut obtenir aussi 13 centres métalliques, ainsi de suite. Mais on peut obtenir ce complexe-là. À ce complexe-là, je vais passer un peu plus de temps dessus. À ce complexe-là, c'est avec du fer 3. On a un atome de fer central, trois atomes de fer extérieur. Et au-dessus, donc perpendiculaire au plan du tableau, vous avez ce ligand-là qui est, qu'on le voit suivant son axe de symétrie C3. Donc ça, c'est une autre vue de la molécule. Donc ça, c'est la vue qu'on avait avant. Et ça, c'est la vue. Si je prends l'axe qui est comme ça et je tourne de 90 degrés, donc vous avez l'autre vue qui est ici. Et on voit le ligand qui est ici, qui bloque bien, en fait, et il joue deux rôles. Il bloque la coordination des atomes de fer, la coordination qui est dans cette direction-là. Et en même temps, il ponte les atomes de fer. Donc, comme on le voit ici, ce sont les oxygènes qui sont là, qui pontent un atome de fer central à l'atome extérieur. Et il y en a deux de ces ligands-là. À cette molécule, comme vous voyez, elle a une symétrie axiale. C'est-à-dire, si vous regardez, si on regarde même cristallographiquement, hein, bien sûr, mais ça se voit ici, on voit bien que si on regarde, cette molécule a un axe C3 qui est perpendiculaire donc, au plan du tableau où on peut passer de cet atome de fer ici, passe ici, peut passer ici. Donc, on a déjà la condition d'anisotropie, on a une anisotropie axiale. Regardons les propriétés magnétiques. Donc voilà, ça c'est un autre schéma de la molécule où j'ai enlevé tous les ligands organiques et je n'ai gardé que le cœur en fait magnétique, les atomes de fer. L'interaction en fait entre le spin 5,5, donc ça c'est le métal de base qui a le spin le plus élevé en fait, fer 3 ou manganèse 2, donc on a un spin 5,5. Le spin 5,5 central interagit ici de manière qu'on appelle antiferromagnétique, entre avec les spins extérieurs. Évidemment, on aurait préféré que l'interaction soit de matière ferromagnétique, c'est-à-dire que le spin central soit aligné avec les spins extérieurs. Là, on aurait eu 4 fois 5,5, un spin est assez égal 10. D'accord ? Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Évidemment, on comprend bien pourquoi l'interaction est comme ça. L'état fondamental ici de cette molécule est 3 fois 5,5, les 3 fois 5,5, moins le 5,5 extérieur, donc a fait S égale 5. Donc c'est toujours un spin très modeste. C'est un spin très très faible, relativement faible. Le spin 5,5, en fait, a 6 composantes possibles. Donc il peut passer, c'est ce que la mécanique quantique nous dit, 5,5, 3,5, 1,5, moins 1,5, moins 3,5, moins 5,5. Et le jeu, c'est de... Est-ce que ce moment... Pardon, moment 5, excusez-moi. Spin 5, donc il y en a plus, il en a 11. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Et l'idée, c'est qu'il passe de 5 à moins 5 en être obligé de monter en énergie à chaque fois. C'est-à-dire, est-ce que l'énergie de l'état moins 4 soit plus élevée que le moins 5 et le moins 3 soit plus élevé? Dans ce cas-là, il pourrait être bloqué dans une direction. Donc je ferai une image après là-dessus. Regardons les propriétés magnétiques à basse température. Là, on voit bien qu'effectivement, dans ce cas-là, on obtient un cycle d'hystérésis suffisamment large pour pouvoir effectivement, c'est la courbe rouge bien sûr, si on est en champ nul, on monte le champ jusqu'à 0,6 Tesla, donc 6000 Gauss. On polarise le moment de la molécule dans le spin S égale 5, donc la molécule a son moment polarisé avec le champ, et puis on coupe le champ. On nous vient ici, et vous voyez bien, quand le champ revient à zéro, la molécule garde son moment. Et si maintenant on met un champ qui est négatif, donc je suis cette courbe rouge, on voit bien que le moment qui est là revient à moins 1, et quand je reviens toujours en champ nul, la réponse, elle est maintenant, le moment, elle est dans l'autre direction, donc opposée à celle-là, donc j'ai bien mon état dit stable, et cela dans une molécule individuelle. Alors, molécule individuelle, vous me dites, mais à quoi, ça peut, pourquoi, j'insiste encore, depuis le début, pourquoi il serait intéressant d'avoir du blocage de l'alimentation et donc de l'effet mémoire dans une molécule individuelle? Ben, l'idée est très très simple. Si on arrive à mettre toutes ces molécules dans une surface compacte et on arrive à adresser une par une, on pourra construire un système avec une densité d'information qui est énorme par rapport à ce qui existe en ce moment, parce que la taille de la molécule, elle ne doit pas dépasser sur surface 1,5 nanomètre. Donc on aura un objet de 1,5 nanomètre dans lequel on peut stocker de l'information. OK. Bon, vous avez remarqué peut-être, si vous avez bien regardé mon transparent, vous avez remarqué que ces expériences-là ont été réalisées à extrêmement basse température. Donc c'est bien, ça fonctionne, c'est intéressant de point de vue intellectuel, mais il est évident qu'on ne va pas utiliser un système pour stocker de l'information à, disons, 0,5 Kelvin, ou à 0,4 Kelvin, ou à 0,3 Kelvin. Donc, on a fait une sorte de preuve du concept. Il est évident que si on veut utiliser un système qui vraiment, on va synthétiser quelque chose qui peut stocker de l'information, il faut au moins que ça fonctionne avec un cycle d'hystérésis comme celui-là, au moins à la température de l'anion liquide, à 4 Kelvin. Dans ce cas-là, on peut vraiment l'utiliser, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent à l'hélium liquide. Évidemment, ça ne sera pas dans des portables, mais ça sera pour d'autres utilisations. Comment faire? Comment faire pour, en partant de la même idée, gardant des objets qui sont toujours de petite taille, pas énormes, quand même avoir une température plus élevée? Il suffit de regarder, enfin il suffit, on va regarder ce diagramme. Ce diagramme, c'est un tout petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer un tout petit peu avec les mains. Ce diagramme, en fait, dit que l'aimantation qui est dans cette direction de la molécule, par exemple la réponse qui est là, donc elle a l'énergie la plus basse, l'autre possibilité pour la molécule, l'aimantation qui est là, elle a aussi l'énergie la plus basse, ce sont ces deux possibilités-là pour l'aimantation, celle-là et celle-là. Mais par contre, pour aller de là jusqu'au là, il faut passer par la barrière. Et cette barrière-là dépend de l'anisotropie magnétique, mais aussi du nombre de centres magnétiques, du moment magnétique. Donc, une idée évidente pour augmenter la barrière, c'est augmenter le moment magnétique. Donc, pour cela, on peut... Donc voilà, c'est un tout petit peu ce que je voulais dire. Donc là, ça peut être la stratégie possible d'augmenter le moment magnétique, mais aussi d'augmenter l'anisotropie. Pour cela, on va passer en fait des petites molécules à ce qu'on peut appeler des nanoparticules moléculaires. On va voir s'il est possible, grâce au même système qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en utilisant le ligand cyano comme pont entre centres métalliques, construire des objets qui ont une taille un peu plus grande, donc un moment magnétique un peu plus grand, et espérer qu'ils pourraient avoir donc un cycle d'hystérésis à une température raisonnable, au moins autour de la température de l'hélium liquide. L'idée ici est tout simplement, alors maintenant, au lieu de prendre le complexe dont j'avais parlé tout à l'heure, où on a bloqué certains sites de coordination du métal avec un ligand, là on va laisser tout libre. C'est-à-dire, on va prendre un hexacyanométallate, qui est le constituant essentiel du bleu de Prusse dont Clément a parlé, sauf que là, je ne veux pas prendre du fer 2, mais du chrome 3 magnétique. D'accord ? Le fer 2 du bleu de Prusse, il est diamagnétique, en fait, il n'y a pas d'électrons célibataires, tandis qu'il y a des électrons célibataires. Et on va associer ça à un autre métal de transition, et par exemple le nickel 2. Alors pourquoi le choix, nous on préfère le chrome 3 et le nickel 2? Parce qu'il se trouve que cette association à travers le ligand cyano donne une interaction ferromagnétique, donc je profite de l'addition des moments magnétiques, au lieu d'avoir quelque chose qui est comme ça et seulement récupérer la différence entre les deux, la différence nette qui reste. Alors, À partir de ça, on va essayer en solution de faire grossir, de faire réagir cette molécule avec celle-là. La réaction est très très simple. L'azote, comme je vous ai dit, qui est là, va substituer la molécule d'eau qui est là. Et je vais avoir comme première étape, par exemple, une molécule de nickel au centre entourée par 6 composés, par 6 ligands comme ça. Et puis ça continue, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'objet en solution puisse atteindre une certaine taille. Alors, ce qu'on remarque, et là je ne peux pas rentrer dans le détail, que l'objet atteint en fait une taille à peu près de 6 nanomètres. À 6 nanomètres, la charge de l'objet devient telle qu'il est stabilisé en solution par les cations qui y sont présents. Et on a, si on contrôle cette croissance en fait en solution en réglant la nature du solvant et la concentration des deux précurseurs, on peut effectivement s'arrêter à une certaine taille, ici c'est 6 nanomètres. Alors évidemment, la première chose qu'on avait faite quand on avait ces objets-là, c'est qu'on les a mis dans une matrice polymère pour les isoler les unes des autres le maximum possible pour ne pas avoir des effets dipolaires. Parce que si on a deux objets magnétiques et qui sont très proches l'une de l'autre, on commence à avoir des effets qui sont collectifs. Et nous, on ne veut surtout pas ça, on veut vraiment les propriétés magnétiques de l'objet lui-même. Donc il faut les isoler le plus possible. Et quand on les isole, on voit bien qu'il n'y a pratiquement pas de cyclohistérésis. Alors pourquoi ? Le moment magnétique ici est beaucoup plus élevé. Il est à peu près de 2000. La réponse est très simple. La deuxième condition, vous vous souvenez, c'est avoir de l'anisotropie axiale, et les objets que j'ai montrés, en fait, ne sont pas cubiques exactement, quand on regarde bien, mais elles sont pratiquement cubiques. Donc il n'y a pas d'anisotropie axiale, il y a d'anisotropie cubique, et l'anisotropie cubique ne suffit pas pour faire de la blocage de l'alimentation. Ça peut se montrer très très facilement. Donc ce qu'on a fait, la première chose, on peut avoir plusieurs manières de voir les choses, on peut dire, on va augmenter la taille pour voir quand est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose. L'autre chose, voir si on peut faire de l'anisotropie magnétique. Donc, augmenter la taille, est-ce qu'on est capable d'augmenter la taille? Donc, l'idée est celle-là. Bon. Pour augmenter la taille, il faut faire de la chimie sur la surface de ces molécules, de ces particules-là. Donc, quand on regarde la surface de ces particules-là, qu'est-ce qu'on a sur la surface? N'oubliez pas, ce sont des particules bimétalliques. On a du chrome entouré par les cyanos et on a les nickels entourés des molécules d'eau. Donc, sur la surface, je vais avoir ces deux ingrédients-là. Je vais avoir les cyanos, qui sont liés au chrome, sur la surface, et les molécules d'eau, qui sont liées au nickel. Et donc, une possibilité très très simple, en fait, d'augmenter la taille, c'est de faire de la croissance du même réseau sur ces particules-là. Donc pour cela, la chimie s'est avérée pas très très compliquée. Il suffit d'utiliser ces particules de départ comme building blocks, si vous voulez, comme objets sur lesquels on peut construire autre chose, et puis ajouter en solution les deux autres ingrédients, c'est-à-dire le composé du chrome, la molécule du chrome et la molécule de nickel. Et cela, bien sûr, en même temps, en faisant bien attention de ne pas faire ce qu'on appelle de la nucléation à côté dans la solution. Donc il faut régler la concentration des ingrédients que l'on met de manière à ce que on fasse que de la croissance et pas de la nucléation parasite. Ça marche très 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 bien, ça marche suffisamment, tellement bien que si on calcule la quantité de matière que l'on rajoute et on prévoit l'épaisseur que l'on va mettre, le résultat que l'on prévoit correspond à pratiquement à 5% de différence à la réalité, à l'expérience. Ce qui nous a permis en fait de montrer qu'il est possible d'augmenter la taille, donc là, 8 nanomètres, donc de 6 nanomètres à 8 nanomètres, 10 nanomètres, 12 nanomètres, 16 nanomètres, 17 nanomètres, plus la taille augmente, plus la dispersité un peu augmente, 22 nanomètres, on est allé jusqu'à 30 nanomètres. Ici, ce sont des clichés de microscopie électronique en transmission, d'accord, qui nous permettent en fait de regarder la cristallinité de ces objets-là. ils sont parfaitement bien cristallins. Ça, c'est la microscopie électronique donc, à haute résolution. On voit bien les plans atomiques, donc on a bien des objets bien cristallins. Et ça, c'est, on peut avoir cette cristallinité qui est pratiquement la même pour les objets de 8 nanomètres et pour les objets, on est allé jusqu'à 50 nanomètres, on garde toujours la même cristallinité, ce qui montre que le processus de croissance, si vous voulez, en solution, bien qu'il se fait très extrêmement rapidement, est parfaitement efficace. Alors, les particules de 18 nanomètres commencent à avoir un petit cycle d'hystérésis. Néanmoins, l'anisotropie est trop faible pour pouvoir avoir un cycle qui devrait être au moins de 2-3 000 Oersted pour pouvoir envisager quelque chose. Là, le cycle est trop petit, il est impossible de se mettre à zéro, à un champ nul, revenir là et revenir à un champ nul et garder une valeur. La précision, le cycle, il est trop petit pour pouvoir vraiment parler de stockage de l'information. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait introduire de l'anisotropie. Pour introduire l'anisotropie, on peut utiliser la surface. Il est bien connu dans les nanoparticules que l'anisotropie vient de la surface. Bon. Néanmoins, dans nos particules qui sont là, il y a de la surface. Pourtant, il n'y a pas suffisamment d'anisotropie. La raison, on la comprend bien, parce que les centres métalliques que l'on a utilisés, le nickel 2 et le chrome 3, intrinsèquement, ne possèdent pas de l'anisotropie. En fait, ils ne possèdent pas ce qu'on appelle l'anisotropie magnétocristalline. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas suffisamment de couplet spin-orbite au sein de ces ions-là pour pouvoir générer de l'anisotropie magnétocristalline et ainsi générer de l'anisotropie au niveau de la particule. Une solution est la suivante. Une solution, c'est de pouvoir mettre à la surface de ces particules qui possèdent un spin plutôt élevé, des ions de coordination qui sont anisotropes. Le cobalt 2 est connu pour avoir une anisotropie très importante à cause de sa structure électronique, quand il est dans un environnement octaédrique, comme c'est le cas ici. D'accord ? Donc le cobalt 2 est un bon candidat, ça on le sait. Donc, est-on capable de faire croître à la surface d'une particule, une coquille où on a, dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, le cobalt 2. Ça, c'était la question. Évidemment, pour pouvoir voir si ça fonctionne, il fallait démontrer. Pour pouvoir le démontrer, on ne pouvait pas le démontrer sur des particules suffisamment petites, qui sont intéressantes au point de vue magnétique. Nous l'avons donc démontré sur des particules un peu plus grandes. Donc, nous avons fabriqué un réseau des nanoparticules avec du fer et du chrome au centre, et on a essayé de mettre à l'extérieur le réseau cobalt-chrome. Donc nous avons fait. Alors la synthèse, elle est relativement simple. On synthétise d'abord les particules de base, c'est-à-dire 16 ions fer-chrome, en contrôlant la concentration, le solvant, la quantité de césium, ainsi de suite. Donc nous avons des particules, on a réglé leur taille autour de 20 nanomètres, et puis on a fait la même chose que tout à l'heure, on a remis ces particules en solution dans l'eau, évidemment tout cela en général ça se passe dans l'eau, et nous avons ajouté nos chrome et cobalt, donc cobalt 2 et chrome 3, cyano, toujours la même chose, en espérant pouvoir construire un réseau parfaitement épitaxié, c'est-à-dire avec sans qu'il y ait de défauts, ou le moins de défauts possible, sur les particules de base. Et les résultats, voilà, donc c'est un tout petit peu ce que je vous ai dit. Donc nous avons nos particules de base, on va rajouter nos deux ingrédients en espérant d'avoir cela. Ça, c'est le résultat ici. Je vous donne le résultat. Donc il faut qu'on utilise la microscopie électronique, évidemment, pour pouvoir voir ce qu'on a. C'est pratiquement le seul moyen pour voir si ça fonctionne. Donc ici, c'est la microscopie électronique à haute résolution. On voit parfaitement bien, là on a eu de la chance, c'est que le contraste ici entre les deux réseaux n'est pas le même. Donc ça, c'était une chance, parce que le contraste, s'il était le même, la microscopie électronique n'aurait pas vu la différence. Et je vous montrerai dans d'autres cas, c'est la même chose. Ici, le contraste est différent. La raison, c'est que la quantité du contre-cation césium inclus dans les pores de ces réseaux de Blood-Prusse n'est pas la même dans les deux réseaux. Et donc le contraste n'est pas le même, le césium ayant beaucoup d'électrons, donc si on en met moins ou plus, ben, le contraste n'est pas le même. Et donc, on a cette différence-là. Et ici, alors, donc on a apparemment les deux réseaux. Néanmoins, est-on sûr que puisque nous, on a mis du fer ici et du cobalt là, on a toujours du fer au centre et du cobalt là. C'est-à-dire, au point de vue chimique, on a bien les réseaux, parce que c'est ce qu'il faut. Parce que s'il y a une diffusion des atomes de fer ici et diffusion des atomes de cobalt ici, on perd complètement ce qu'on recherche, c'est-à-dire avoir une petite couche de composé anisotrope à la surface de la particule. Donc il faut absolument qu'il n'y ait pas... qui est pas diffusion. Donc, alors pour cela, on a réalisé, donc on a, ce n'est pas nous, ça c'est un travail qui a été un travail qui est extrêmement joli, qui a été fait donc par Alexandre Glotter et Odile Stéphan au laboratoire de physique de solide à Orsay, où ils ont imagé par de la microscopie électronique à transmission et à balayage, donc grâce à une pointe, ils étaient capables d'imager en fait une particule de manière chimique. Donc, en utilisant une spectroscopie particulière. Donc, il est possible de faire de la spectroscopie de perte d'énergie qui est sensible à l'élément qui se trouve là. Et donc, on peut faire un mapping chimique, donc une imagerie chimique. Et là, on voit bien qu'il y a du carbone partout, c'est normal, c'est le cyano, il y en a partout. Et il y a de l'azote partout, donc c'est normal, il y a de l'azote, il y a du cyano partout. Et il y a du césium presque partout, à l'extérieur, il y en a moins. Donc, ce qui nous confirme dans notre idée que la quantité de césium, probablement, elle est moins importante dans le réseau qui est extérieur. Il y a du chrome partout. C'est normal, parce que le chrome, on l'a utilisé dans le particule du centre et dans le particule extérieur. Donc, il doit y avoir du chrome partout. Par contre, du fer, et ça, c'est vraiment la preuve, il n'y en a qu'au centre. Il n'y a clairement pas du fer ailleurs. Et donc, clairement, le fer, donc la particule qui contenait césium fer chrome en solution, lors de la synthèse, qui a pris au moins une heure, il n'y a pas eu du tout de dissociation, et le fer reste à l'extérieur, et le cobalt, il est bien, reste à l'intérieur, le fer, et le cobalt, il est bien à l'extérieur. Évidemment, ce que vous voyez ici, c'est normal, parce que la pointe, elle passe sur une particule qui est comme ça. Le cobalt, il est sur les côtés, mais il est aussi en haut. Donc évidemment, elle voit bien du cobalt, c'est normal. Mais sauf que la concentration de cobalt extérieur, elle est la plus importante, donc c'est bien ce qu'on veut. Donc apparemment, ça fonctionne. Au moins, on a fait la preuve qu'on est bien capable de mettre une couche extérieure sans avoir de diffusion. Et donc, évidemment, ce qu'on a... Oui, OK. Là, c'était pour montrer que l'interface, il n'y a pratiquement pas de défaut. D'accord ? Ce n'est pas étonnant, bien sûr, parce que les deux réseaux cristallins possèdent des paramètres de maille très, très, très proches. Donc, ce n'est pas étonnant, mais il fallait bien le montrer. C'est très important, après, pour les propriétés magnétiques, que la surface et l'interface soient bien propres. On montre bien que ce résultat-là n'est pas seulement pour une particule, mais bien vraiment pour toutes les particules. D'accord ? Là, c'est un ensemble de particules. Là, on regarde, si vous voulez, on voit bien que le cobalt est à l'extérieur, donc, et sur plusieurs particules, que le fer est essentiellement à l'intérieur. OK, donc, notre composé donc, qu'on avait proposé de faire, c'est prendre une particule de césium nickel chrome, mais là de taille, il faut que la taille soit petite. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine taille, sinon on passe dans le domaine ferromagnétique, et ça, ce n'est pas intéressant. Il faut toujours être où les particules sont dans le domaine superparamagnétique et être en dessous de leur température de blocage. C'est le seul moyen pour que le moment magnétique réagissent comme je vous l'ai expliqué. C'est-à-dire, le moment magnétique de cette particule s'est vraiment assimilé à un moment comme ça. Et ce n'est pas une sorte de vortex de plusieurs moments magnétiques indépendants les uns des autres à l'intérieur de la particule. Donc il faut bien être en dessous de la taille, ce qu'on appelle la taille du monodomaine. Et ça, c'est le cas pour ces particules-là. La taille du monodomaine ici, elle est autour de 16 nanomètres, et là, on est à 9 nanomètres. Et notre objectif, c'était de construire une couche de 1,5 nanomètre de césium cobalt chrome. Il est très important que la taille du réseau césium cobalt chrome ne soit pas trop importante, parce que c'est toujours pareil, on va sortir du domaine superparamagnétique. On va aller dans le domaine ferromagnétique, et là, ce n'est plus très intéressant parce que, enfin, du moins pour ce qu'on veut faire nous, hein, bien sûr, parce que là, les moments ne réagissent plus comme un seul moment. Donc, il fallait passer de 9,5 à 12,5, donc une augmentation de la taille totale de 3 nanomètres, donc une couche de 1,5 nanomètres, et 1,5 nanomètres correspond exactement à 3 couches moléculaires. Donc il fallait vraiment, parce que chaque couche moléculaire, elle fait à peu près 0,5 nanomètre, 5 angstroms, donc 1,5 nanomètre. Donc il fallait vraiment construire 3 couches moléculaires. Et ça, c'est le résultat final, en fait. Évidemment, là, on ne voit pas la couche extérieure parce que la résolution de la technique est à peu près de 1 nanomètre. Donc, il est impossible, bien sûr, de voir une différence entre ce réseau-là et celui-là. Nous avons obtenu ces particules-là. Nous sommes partis de particules de 9,5 nanomètres et on a obtenu des particules qui sont autour de 12-13 nanomètres. Donc, quelque chose s'est additionné. Évidemment, le seul moyen pour savoir, c'est de regarder les propriétés magnétiques. Donc là, on compare les propriétés magnétiques des particules de départ avec un cycle d'hystérésis pratiquement fermé, il n'y a pratiquement rien. Et dès qu'on met une couche de 1,5 nanomètres sur ces particules de cobalt, on a un cycle d'hystérésis qui s'ouvre, devient vraiment là suffisamment intéressant pour pouvoir faire quelque chose. Bon, j'ai fait exprès de passer un peu de temps sur cette idée-là, tout simplement pour montrer un tout petit peu ce qu'on fait en fait tous les jours dans le laboratoire. En fait, on n'a pas toujours un résultat qui fonctionne, on en a très très peu même. On fait beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, on fait des choses qui fonctionnent, donc on est content. Donc c'est pour cela que j'ai passé un tout petit peu plus de temps qu'il ne fallait peut-être sur cette première partie. Est-ce qu'il est possible d'aller un peu plus loin? Oui, il est possible en fait d'aller un peu plus loin, ça c'était juste pour s'amuser. Est-ce qu'on peut faire des couches en oignons? Oui, on peut en fait, on peut partir des deux particules d'une certaine composition, on peut faire une couche d'une composition et on peut faire après une troisième couche d'une autre composition. Donc c'est très très joli. Est-ce que ça, du point de vue intellectuel, c'est intéressant? Au point de vue propriété, c'est aussi extrême. Ça peut être extrêmement intéressant parce que, en fait, avec ces objets-là, on pourrait en fait mettre pratiquement où on veut dans un objet de taille nanométrique le réseau que l'on veut, qui a des propriétés magnétiques, peut-être pas que l'on veut parce qu'on n'a pas beaucoup de marge, mais on peut jouer beaucoup sur les propriétés magnétiques à l'intérieur de l'objet lui-même. Une idée intéressante, c'est que se passe-t-il si je sépare une particule magnétique d'une couche magnétique par une couche diamagnétique, où il n'y a pas de moment. Comment il est possible de manipuler les moments correspondants à cette coquille-là et à celui-là, qui sont couplés de manière faible, bien sûr, à cause de la partie diamagnétique qui les sépare. Est-il possible de les manipuler? Par exemple, est-ce que je peux mettre, par exemple, ici, un composé qui réagit avec la lumière? Une idée possible, par exemple, un composé qui est diamagnétique sans lumière, et quand je l'éclaire, devient ferromagnétique. Dans ce cas-là, je pourrais, avant éclairement, avoir deux réseaux, le bleu et le rouge, qui sont indépendants. Et quand j'éclaire, je les couple ensemble. Et donc, je change de manière drastique les propriétés magnétiques. Ça, ce sont des exemples de choses qu'on pourrait faire. Nous, ce qu'on voulait savoir d'abord, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on peut faire des réseaux à trois? Donc là, tout simplement, rapidement, ça marche bien. On a un cœur, on a une première coquille et on peut faire une deuxième coquille. Évidemment, il faut faire attention à un moment donné, le bord de la dernière coquille commence à être un peu amorphe. Parce que les tailles commencent à être plus grandes. Et l'analyse chimique aussi, par la même technique que tout à l'heure, par Alexandre et Odile Stéphane, montre parfaitement bien qu'on a le cobalt là où on voulait, au centre, les fers à la première couche, le nickel à l'extérieur et le chrome un peu partout. Et on remarque bien, c'est assez intéressant, qu'il y a un peu de déficit de chrome au centre, qu'on voit d'ailleurs un tout petit peu ici, dans la nanoparticule. Et là, bon, bien sûr, c'est une chose qui va nous servir après, à comprendre quel est le mécanisme en fait de la croissance de ces objets-là. Pour finir, je vais juste passer jusqu'à 5-10 minutes maximum, introduire une autre propriété. Alors, l'intérêt des réseaux de coordination, un des intérêts, à part tous les intérêts dont Clément a parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir introduire des propriétés. Nous, on s'intéresse aux propriétés grâce au ligand et grâce au centre métallique que l'on met dedans. Une propriété intéressante, c'est le transfert de charge. C'est-à-dire, est-il possible de changer le degré d'oxydation, en fait, tout simplement, d'un centre magnétique par une perturbation extérieure? Ça, c'est une chose possible. Une autre chose possible, qui est bien connue dans le domaine des transitions de spin, c'est, en éclairant, peupler un état excité, mais qui peut vivre suffisamment longtemps pour changer quelque chose dans la molécule. C'est ce qu'on peut appeler le photomagnétisme. Il était bien connu depuis assez longtemps, mais ces composés étaient étudiés à partir des années 2000 par deux groupes en France et au Japon. Il s'agit de l'octacyanomolybdate 4, donc molybdène 4, spin 0, donc en composé diamagnétique, associé au cuivre 2, donne un réseau de coordination similaire au réseau dont Clément a parlé tout à l'heure, où on a le cuivre qui vient se lier aux atomes d'azote ou de cyano pour former un réseau comme ça. Il a été montré que ce composé de molybdène réagit avec la lumière. C'est-à-dire, ce qui était connu, c'est que quand on éclaire ce composé-là à 400 nanomètres, il y a une oxydation. C'est-à-dire, on passe du molybdène 4 au molybdène 5. Évidemment, le molybdène 4 possède deux électrons à parier. C'est pour ça qu'il est diamagnétique. Mais quand on fait partir un électron, il ne reste plus qu'un seul électron célibataire, donc on fait apparaître du magnétisme. Donc ça, c'est un moyen extrêmement simple, par oxydation, ici par la lumière, de passer d'un composé qui est diamagnétique à un composé qui est magnétique, qui est ici dans une molécule paramagnétique. Donc, c'est ce qui a été accepté depuis pas mal de temps. Je pense que nous avons réussi à prouver il y a à peu près un an qu'en fait, il n'y a pas oxydation. En réalité, il se passe autre chose. En fait, la lumière permet d'atteindre un état excité, l'état excité qui correspond au flip d'un électron, en fait. Donc, on passe de l'état S égale 0 à l'état S égale 1. Donc, on pense qu'on a réussi à démontrer. On va voir si on a raison en regardant d'autres papiers. Néanmoins, on passe d'un état S égale 0, S égale 1. Le résultat est le même. Si je considère mon réseau donc de coordination ou polymère de coordination formé du molybdène 4 qui est diamagnétique et du cuivre 2 qui, lui, est paramagnétique. Il a des électrons célibataires. La distance entre les ions cuivre, elle est trop faible, trop forte, trop importante pour qu'il y ait communication électronique. Donc les moments magnétiques sur chacun des cuivres vivent chacun sa vie tout seul. C'est ce qu'on appelle un composé paramagnétique, c'est-à-dire si on n'applique pas de champ magnétique, le moment global est nul. Donc c'est un paramagnétique. Par contre, si on éclaire ce composé-là, on crée du spin ici, parce qu'on fait passer les molybdènes de l'état S égale 0 à S égale 1. La création du moment magnétique ici du spin induit un couplage, donc une communication entre ce spin créé et les autres rouges, de manière à ce que tout le monde communique ensemble, et dans ce cas-là, tous les moments magnétiques ont un effet collectif qui se met dans la même direction. Donc on passe d'un composé qu'on appelle paramagnétique, un composé ferromagnétique. Un paramagnétique en champ nul, il n'y a pas de moment. Un ferromagnétique en champ nul, il doit y avoir du moment. Alors nous avons notre idée, est-ce qu'il est possible de réaliser maintenant des nanoparticules, donc des petits objets, où on pourrait contrôler effectivement la création, l'apparition d'un cycle d'hystérésis grâce à la lumière. C'est-à-dire, l'idée, c'est de prendre évidemment toujours des petits objets, donc il faut faire des petites nanoparticules. L'idée, c'est de partir de quelque chose qui est paramagnétique, donc pas cycle d'hystérésis, qui, après éclairement, pourrait faire apparaître l'ouverture d'un cycle. Ah, donc nous avons fait la synthèse. On remarque, en fait, ici, qu'on a les particules. Ça, c'est de la microscopie électronique à transmission. On voit qu'on a deux types de particules. Vous voyez, les particules qui sont plus foncées qui ont cette taille-là, et les autres particules qui sont comme ça, qui ont l'air d'être plus des carrés. Nous avons pensé à un moment donné qu'on a un mélange de deux types de particules différentes. En fait, ce n'est pas le cas. Les particules sont des sortes de plaquettes. Et ici, dans cette image, il y a des plaquettes qui sont sur la tranche, et il y a des plaquettes qui sont sur la face. On voit bien que l'analyse chimique ici montre, grâce à la même technique, que la composition des deux types de particules est la même. Et là, on a bien notre résultat intéressant. C'est qu'avant éclairement, donc si je regarde l'aimantation en fonction du champ magnétique, avant éclairement, on a le comportement d'un composé paramagnétique, après éclairement, on a le comportement d'un composé qui est ferromagnétique. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'après éclairement, on voit bien l'ouverture d'un cycle d'hystérésis au sein des nanoparticules, qui évidemment qui est absent avant éclairement. OK. Après, qu'est-ce qu'on peut faire après ? On a fait des objets qui peuvent être intéressants, qui ont une bistabilité, qui peuvent être contrôlés par la lumière, qui peuvent être contrôlés aussi par la température, d'autres types d'objets dont je n'ai pas parlé. Évidemment, la deuxième étape, c'est de pouvoir les organiser sur une surface. Parce que si à un moment donné, on voudrait penser à les utiliser dans n'importe quel type de dispositif, il faut pouvoir les organiser sur la surface. Et c'est un tout petit peu ce qu'on avait essayé de faire. Je vais passer cette partie-là. Je vais vous montrer juste. Voilà, donc juste, ça c'est l'exemple. Donc ça sera mon dernier transparent. Ça c'est l'exemple des particules photomagnétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont en fait organisées en monocouche sur du graphite. Donc l'organisation sur monocouche, elle n'est pas très difficile, mais elle n'est pas très très simple. Il faudrait tout simplement contrôler la nature des cations, parce que ce sont des particules solubles dans l'eau en fait, la nature des cations, il faut contrôler la concentration. En contrôlant cela, dans le cas de ces particules-là, ça fonctionne parfaitement bien, on arrive, et ça c'est très très important, à couvrir vraiment des surfaces très très importantes, relativement importantes, donc de graphite. Alors, l'idée, le graphite est intéressant pour nous parce que la deuxième étape, évidemment, c'est de pouvoir faire ça sur des feuilles de graphène. Les feuilles de graphène, pourquoi ? Parce que dans les feuilles de graphène, on peut faire de l'injection d'électrons et on pourrait espérer pouvoir contrôler le courant, pas normal, mais le courant polarisé en spin, peut-être, grâce aux propriétés magnétiques de ces nanoparticules qui couvrent la surface, et cela pourrait être contrôlé par la lumière. Pourquoi ? Parce qu'on pourra rendre les particules magnétiques grâce à la lumière. Et donc l'idée serait, par exemple, de pouvoir faire une sorte de filtre de spin. Donc ça c'est une idée qu'on va essayer de voir si elle fonctionne, mais les conditions étaient quoi ? Étaient pouvoir avoir les objets, pouvoir les mettre sur une surface pour couvrir le maximum, maximum possible de la surface et pouvoir contrôler ça avec autre chose qu'un champ magnétique, bien sûr, parce qu'avec un champ magnétique, c'est autre chose. Il faut le contrôler avec autre chose, la température, mais la lumière, c'est un des meilleurs contrôles. Et là, ça fonctionne très, 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 très bien. Donc, sur cet exemple, je vais finir mon exposé. Et évidemment, avant de finir, il faut bien que je dise que pratiquement tout le travail que vous avez vu ici était dû à des étudiants qui sont magnifiques, que j'ai eus depuis 5-6 ans, à des postdocs aussi, et particulièrement pour la partie nanoparticules à ma collègue Laure Catala, qui en fait a conçu beaucoup des choses et beaucoup des idées dont je vous ai parlé, elles venaient d'elle en fait, et à Sandra Mazerat, donc, qui a beaucoup travaillé en fait pour pouvoir optimiser ce que je vous ai montré, qui est qu'une simple image, en fait, il fallait bien l'optimiser, c'était son travail. Donc je vous remercie pour votre attention.